France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Fanny Richer et Barthélémy Gaillard, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Mineta Djawara. Leurs nuisances ne sont plus à démontrer, mais nos déchets s'amoncellent et nous ne savons plus quoi en faire. Nous parlions hier du commerce international des déchets dont les pays du Sud ne veulent plus. Aujourd'hui, du Caire en Égypte à New Delhi en Inde, la double peine des chiffonniers.
Je m'appelle Vijay, je viens du district de Bijnor en Uttar Pradesh. J'avais 12 ans quand je suis arrivé ici et depuis, je travaille dans la collecte des déchets. Nous trions le plastique ainsi que le papier et tout le reste. Nous séparons les bouteilles, du papier et du verre. Nous le faisons pour la personne à qui nous le revendons pour qu'il n'achète que les matériaux que nous avons triés.
Je pense que c'est un travail important, mais personne n'en voit la valeur. Si nous ne collections pas les déchets recyclables, ce serait un gaspillage. Les camions à ordures se rempliraient rapidement et devraient faire des allers-retours tout le temps. Ce serait beaucoup de travail pour la municipalité d'Istanbul. Mais lorsque nous collectons, il ne reste que les déchets inutilisables.
Notre principal défi aujourd'hui, c'est que le gouvernement néglige les membres de notre communauté. Les autorités marginalisent les abalines en accordant la collecte à d'autres personnes que nous. Notre expertise n'est toujours pas reconnue et nous sommes encore stigmatisés.
Ils viennent parfois des campagnes lointaines ramasser des ordures comme on ramasse quelques miettes de vie. Les plus débrouillards collectent les déchets secs, facilement recyclables. Les moins chanceux fouillent les poubelles, se baissent dans les rues ou les décharges pour attraper quelques détritus dont ils pourront éventuellement faire quelque chose. Parfois, c'est sûr, ils pensent apercevoir de loin une pierre de lune, une sphère pleine de bulles et des facettes innombrables. Mais dans la main, la pierre devient quelque chose de mou, humide, gluant. Le saphir est en fait un crachat humain, comme dans un livre de Paul Auster. Si les collecteurs de déchets appelés abalines au Caire, Waste Pickers à New Delhi, Toplay Yejilash à Istanbul, Boira à Casablanca, si ces collecteurs de déchets ont une réelle utilité sociale et environnementale, ils ramassent les déchets d'abord par nécessité, mais ne veulent pas qu'on les plaigne. L'amélioration de leurs conditions de travail a été abordée à Genève cet été lors du sommet international sur la pollution plastique. Ce plastique dont la prolifération a d'ailleurs été une aubaine, un tournant dans la carrière de ces chiffonniers. Qui sont ces collecteurs informels? Bonjour Bénédicte Florin.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous, vous êtes géographe à l'université de Tours, rattachée à l'équipe Monde Arabe et Méditerranée du laboratoire de recherche CITERES pour Cité, Territoire, Environnement et Société. Vous êtes lauréate d'une chaire en médiation scientifique de l'Institut Universitaire de France sur les questions justement liées aux déchets et au recyclage. Il est 14h04 à Pondichéry où vous êtes, Rémy de Bercegol. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, chercheur au CNRS, affilié au laboratoire Prodige pour pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique, chef du département des sciences sociales de l'Institut français de Pondichéry. Alors que ce soit en Inde, en Égypte, en Turquie aussi, qui est un pays que vous connaissez bien, Bénédicte Florin, tous les chiffonniers n'ont pas exactement la même histoire, ne trient pas les mêmes déchets, mais il y a beaucoup de similitudes dans leur travail. Alors je dis chiffonnier parce que c'est ainsi qu'on parle d'eux en général. Sœur Emmanuelle, par exemple, chiffonnière chez les chiffonniers, comme elle disait d'elle pour raconter son travail pour Emmaüs dans les bidonvilles du Caire. Mais est-ce qu'ils se nomment eux-mêmes ainsi, Bénédicte Florin?
En effet, le terme chiffonnier est le plus connu en France pour définir et qualifier les récupérateurs de déchets. On peut penser aux chiffonniers d'Emmaüs. Et vous avez raison de le préciser, hein. Le terme chiffonnier ne se traduit pas du tout de la même façon, n'a pas forcément de sens, n'a pas la même étymologie dans les pays des Sud sur lesquels on travaille. Et ça, c'est la première chose. Là, le second point, c'est que souvent, souvent on associe le terme chiffonnier à des chasseurs-cueilleurs dans la jungle urbaine. Je renvoie aux travaux d'une anthropologue mexicaine qui ont été précurseurs sur la question. Or, les formes d'organisation de la récupération et surtout de recyclage sont beaucoup plus complexes que ce que laisse entendre chasseurs-cueilleurs.
Et puis dans chiffonnier, il y a chiffon, or il ne ramasse pas des chiffons.
Le terme est réducteur également parce que le chiffon a très peu de valeur et on en reparlera tout à l'heure, mais dans la hiérarchie des déchets, bien sûr que le chiffon n'est pas la première chose le que textile. Les récupérateurs recherchent. On parle pas de la fripe, on parle du chiffon.
Alors au Caire, on les appelle zabalines et vous avez interrogé Bénédicte Florin, l'un d'eux, à ce sujet.
Pourquoi on vous appelle zabaline ?
Bon, mais le mot zabaline, si tu parles, c'est un mot arabe. Zabal, c'est le nom de l'homme qui produit les popelles. C'est pas l'homme qui ramasse les popelles. Qui produit les popelles autour. Moi, je peux dire que tous les habitants sont des zabalines. Mais nous, on est des nettoyeurs. Et ils ont attaché notre nom aux ébalas, les popelles qu'on ramasse. Alors, les chiffonniers, quoi. Alors, c'est la défense.
Tu veux dire que ce sont les habitants qui sont les abalines ?
Mais bien sûr, c'est le mot, c'est comme ça. Mais s'ils veulent comprendre, s'ils veulent pas, laisse tomber, pas de problème. On est les abalines toujours.
Toi, tu aimerais que ce nom change pour vous ?
Non, on est très fiers avec ce nom-là.
Romani Bardir, c'est son nom qui retourne le stigmate du zabaline. Ce sont nous qui produisons les déchets qui sont des zabalines. C'est l'extrait d'un documentaire que vous avez co-réalisé, Bénédicte Florin, avec Pascal Garret pour l'Institut du Monde Arabe. Vous y suivez Romani Bardir dans les rues du Caire. D'où viennent ceux que vous avez rencontrés? Je dis ceux parce que ce sont très souvent des hommes, que ce soit au Caire ou à Istanbul. Est-ce qu'ils sont nés là où ils travaillent aujourd'hui?
Non. Initialement, ce sont des migrants ruraux qui s'installent dans les années 1930 au Caire, qui sont très pauvres, démunis de tout et notamment de travail. Et ils vont... Alors, l'histoire est un peu compliquée, je suis obligée de simplifier, mais se mettre à collecter les déchets, notamment pour nourrir leurs animaux, donc des déchets verts. Il y a peu de déchets dans les années 1930 au Caire. On n'est pas encore dans la société de consommation qui produit des déchets qu'on connaît aujourd'hui. Ils ramassent les déchets verts et puis, progressivement, ils vont se mettre à ramasser d'autres types, d'autres objets, d'autres formes, d'autres types de déchets.
Au départ, pour nourrir leurs animaux, qui sont souvent des cochons, car ce sont très souvent des coptes, les ramasseurs de déchets.
Alors oui, dans la superposition de stigmates qui construit leur marginalité, il y a effectivement le fait qu'ils sont chrétiens coptes, donc minorité religieuse dans un pays à 90% musulmans. Ils s'appellent zabaline, comme disait Romani. Zabal, c'est l'ordure, c'est, excusez-moi, la merde, l'ordure. Et donc ce qualificatif les marque, c'est le lien à la souillure, au sale, etc., un stigmate que Romani démonte. Ils font encore une fois partie de la communauté copte, avec peut-être cette précision que dans le plus grand quartier des Abalines, celui de Moukattam, il y a un haut lieu de pèlerinage copte. Et on voit comment à chaque stigmate, on a un versus, un pendant, un contre-stigmate. Le sale, la souillure, un quartier de 80 000 personnes tout occupées à recycler, à trier, à recycler les déchets. Et surplombant ce quartier, un lieu de pèlerinage copte, donc le saint, la sainteté versus le sale, la souillure. Migrants ruraux, vous l'avez dit, et peut-être dernier stigmate et non des moindres, les élevages de cochons qui leur permettent de réduire 40% de la poubelle qu'ils récupèrent, à savoir les déchets organiques, 40% de déchets organiques
qu'ils donnent à leurs cochons,
voilà, qui sont mangés par les cochons.
Les récupérateurs d'Istanbul contrôlent, eux, souvent viennent des campagnes turques, même encore aujourd'hui.
Oui. La différence avec les Abalines du Caire, qui forment une communauté, une corporation, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est que les Toplaïçlar d'Istanbul sont beaucoup plus dispersés dans la ville et forment des groupes distincts. Donc on a des migrants saisonniers, effectivement, turcs, qui viennent de la région pauvre d'Aksaray, hein, et qui viennent collecter quand il n'y a pas de récolte au pays, dans la région d'origine. Des Kurdes, des Roms, qui ont sans doute été les premiers à collecter des déchets, notamment pour les réparer, l'étaminage, le travail du métal, etc. Les migrants syriens après... à partir de la guerre civile, voilà, en Syrie, des migrants afghans qui ont été expulsés récemment par le gouvernement
et qui étaient arrivés après le retour des talibans
tout à
en 2021.
Et quelques subsahariens qui sont bloqués dans leur voyage et qui tentent d'économiser un petit capital pour continuer le voyage, leur parcours migratoire.
Rémi de Bercegol, en ce qui concerne les collecteurs de déchets à New Delhi, est-ce que eux habitent dans la ville, en périphérie? Où vivent et d'où viennent ceux que vous avez rencontrés?
Alors, merci pour cette question. Ben, Vijay, qu'on entendait tout au début de votre émission, un extrait qui a été diffusé, lui, par exemple, il vient de l'ouest de l'Uttar Pradesh. C'est un Dalit, donc c'est ce qu'on comprend comme une caste d'intouchables, sauf qu'on le dit, on n'utilise pas trop le terme qui est péjoratif. Parce qu'il faut savoir qu'en Inde, alors vous l'avez un petit peu traité dans la précédente émission sur l'assainissement, on a ce système de caste hein, qui hiérarchise la proximité à l'impur et à l'impureté. Et donc, il y a historiquement assigné aux Dalits les tâches impures du déchet. Et donc, on trouve majoritairement des populations de hors caste, des Dalits, qui font ce travail de récupération des déchets. On trouve aussi d'autres catégories. Il y a un autre facteur, en plus du facteur religieux qui est propre à la religion hindouiste, on a le facteur colonial, parce que sous le règne britannique, la colonisation britannique, elle avait stabilisé un corps de balayeurs professionnels pour nettoyer les quartiers coloniaux hein, au service de l'élite britannique. Et pour cela, ils avaient fait venir des travailleurs agricoles qui n'étaient pas forcément dalits. Donc, ils appartiennent à ce qu'on appelle en Inde à des OBC. Donc, c'est des castes qui sont pas hors caste, c'est des castes qui sont un peu mieux placées dans la hiérarchie hindouiste que les Dalits et qui sont restés dans ce travail-là. Et enfin, il y a un dernier facteur. On retrouve énormément de musulmans, urbains pauvres. La double peine également, parce qu'ils sont exclus des quotas qui sont réservés aux Dalits. Il y a quand même des quotas pour essayer de faire bouger la mobilité sociale en Inde. Donc les Dalits sont reconnus comme des scheduled castes, donc ça leur donne droit à certains droits. Et donc ces musulmans-là, à partir de la partition de l'Inde, à l'indépendance, se sont retrouvés cantonnés aux marges de l'économie formelle et donc ils sont surreprésentés dans les travaux de récupération des déchets. Alors on trouve des quartiers entiers à Delhi, peuplés de communautés musulmanes qui travaillent dans les déchets. Je cite deux exemples. Il y a Tikri Kalan à l'ouest de Delhi, où on trouve le grand marché des déchets plastiques. Une des communautés qui travaille sur ces déchets, c'est des Katiks. Dont une grande partie est musulmane. Mmh. On trouve aussi les Maliks à Mustafabad et à Silampour qui, eux, sont spécialisés dans les déchets électroniques.
Il y a aussi ceux qui sont spécialisés dans le recyclage. Comment ? Il y a aussi ceux qui sont spécialisés dans le recyclage du textile, les Ansari, par exemple. Donc, c'est comme si chaque communauté à New Delhi avait sa propre spécialisation dans le ramassage des déchets.
Alors ces communautés en série que j'ai rencontrées, elles sont pas à Delhi même, elles sont dans la campagne de l'Uttar Pradesh, mais effectivement, parce qu'on a des quartiers entiers de récupérateurs musulmans, mais on trouve aussi des villes entières de récupérateurs et de recycleurs musulmans qui ont trouvé là une activité de subsistance. Donc moi, je m'intéresse à une ville qui est en grande périphérie de Delhi, hein, qui est plutôt dans la campagne de l'Uttar Pradesh, où il y a peuplé intégralement de musulmans, et 90% de ces travailleurs sont impliqués dans les activités de recyclage. On trouve les Ansari, donc c'est des anciens tisserands qui ont pris la libéralisation de l'Inde en plein dans le...
Enfin, ils, dans la figure.
L'État socialiste indien qui... Voilà, en plein dans la figure, a arrêté de les soutenir et ces Ansari ont dû se recycler comme des chiffonniers pour aller récupérer le textile dans les villages indiens, pour aller les revendre aux usines de textile, pour acheter des vêtements, les vêtements que vous donnez à Emmaüs, qui arrivent là-bas et qui sont ensuite défilochés à la main. Ça leur permet de reprendre une activité de tissage. Donc c'est des tisserands qui se sont réinventés et recyclés. On a plein d'exemples comme ça,
oui,
de communautés qui ont été obligées de se recycler dans ce travail.
Et pour les vêtements qu'ils préfèrent recycler, ce sont les vêtements d'hiver. J'ai appris ça en vous lisant. Les fils des vêtements d'hiver se défont plus facilement. C'est plus facile à la fois à collecter, mais aussi à trier, ensuite à recycler. En tout cas, ces ramasseurs de déchets ont un véritable rôle social et environnemental dans une Inde au développement économique rapide où les villes produisent 125 000 tonnes de déchets par jour et où les politiques mises en place par les municipalités ne suffisent pas.
Je travaille dans l'industrie des déchets depuis 10 ans. On reçoit le plastique, on le broie et puis on le lave. Ensuite, on le transforme en granulés que l'on vend sur le marché. Une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint ce secteur était de contribuer à réduire la pollution dans notre pays, tout en gagnant notre vie en faisant ça. Il y a de nombreux avantages. Nous gardons l'Inde propre en réduisant la pollution. C'est pour cela que j'ai choisi ce travail. C'est comme ça que je gagne ma vie.
On entend bien le rôle que se donnent ces waste pickers, comme ils s'appellent en Inde, rendre l'Inde plus propre. C'est l'extrait d'un de vos documentaires, cette fois-ci Rémi de Bercegol, que vous avez co-réalisé avec Grant Davis et Shankaré Goda en 2019, The People of Waste. Le travail de tri en lui-même, est-ce qu'il se fait au cœur de la ville? Je vous pose la question en quelques mots, Rémi de Bercegol pour Delhi, puis Bénédicte Florin pour Le Caire.
Alors, il se fait en partie à Delhi, mais de plus en plus, il est évacué en périphérie parce que, notamment avec le programme Swachh Bharat Abhiyan, qui est un peu la réforme emblématique qu'a lancé Narendra Modi en 2014 et qui signifie nettoyer l'Inde, ses activités de tri et de recyclage et de récupération des déchets, ça fait pas, d'un point de vue marketing urbain, ça fait pas très beau. Et donc, de plus en plus, on voit des régulations qui visent à évacuer ces activités en périphérie. Le marché dont je parlais tout à l'heure rapidement, le grand marché de déchets plastiques qu'on appelle le marché du PVC, qui est dominé par les Katiks. Au départ, il était au centre de Delhi et petit à petit, il a été évacué en périphérie. Maintenant, il est vraiment à la périphérie de Delhi. Il y a certaines matières beaucoup plus polluantes qu'on trouve de moins en moins à Delhi, qu'on va retrouver dans les campagnes de l'Uttar Pradesh où c'est plus facile de recycler sans suivre les normes. Il y a moins de contrôle, il y a aussi beaucoup plus d'espace pour le faire et il y a aussi beaucoup plus de gens qui sont prêts à travailler pour des coûts salariaux très 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 faibles.
Vous parlez par exemple de ceux qui recyclent, enfin qui collectent puis recyclent le cuivre. On extrait le cuivre des déchets électroniques en brûlant la carte mère. C'est très très polluant, surtout des femmes et des enfants qui s'en occupent parce qu'il ne faut pas. Enfin voilà, c'est eux qui sont chargés de faire ça en général. Et ce cuivre est ensuite récupéré par les grossistes de Moradabad, ville centrale dans la production d'objets en laiton, qui sont achetés ensuite par de grandes marques vendues à New York ou Paris. Et on est loin de se douter, en général, quand on achète ces objets-là, que le cuivre a été extrait de la sorte et le laiton fabriqué ainsi. Ça, pour ceux qui ramassent le cuivre, c'est presque la noblesse du métier. Bénédicte Florin, quand on ramasse des déchets secs, on est encore dans une démarche, on est presque, oui, en haut de la hiérarchie. Il y a des hiérarchies parmi les collecteurs, vous avez commencé à nous le dire tout à l'heure.
Oui, il y a des hiérarchies en fonction du matériau que l'on collecte, que l'on récupère, avec les métaux, le cuivre, l'aluminium, qui évidemment sont le nec plus ultra de la récupération. Peut-être que la spécificité des abalines du Caire par rapport aux autres exemples que je connais, c'est qu'ils récupèrent la totalité des déchets ménagers, des ordures. Il n'y a pas de tri, bien sûr, de la part des habitants. Ils vont au petit matin, au porte-à-porte, récupérer l'entièreté de la poubelle et qu'ils ramènent dans leur quartier, c'est 6000 tonnes par jour. Faut imaginer le volume, la masse que ça représente. Et ces 6000 tonnes par jour vont être triées par des femmes et des enfants de façon extrêmement fine. Je ne légitime pas forcément le travail des femmes et encore moins, bien sûr, des enfants. Mais cette capacité, cette compétence, cette reconnaissance des différents matériaux permettent que le recyclage soit extraordinaire. Les Abelines du Caire, ce sont les meilleurs recycleurs du monde. Et aussi 90% de ce qu'ils récupèrent. Autant dire que nous, on est très à la traîne. Et autant dire que ceux qui ne savent pas recycler, personne, grosso modo, ne sait le recycler. Peut-être, si vous me permettez, je donne un autre exemple différent de ceux qui viennent d'être évoqués. Ce sont les récupérateurs qui travaillent dans les décharges. La décharge sur laquelle j'ai travaillé, je ne sais pas comment le dire, qui est celle de Medouna au Maroc, dans la grande périphérie de Casablanca, fermée aujourd'hui. Cette décharge recevait 4000 tonnes de déchets, dont 1000 tonnes étaient extraites par environ 700 récupérateurs. La décharge, c'est le déchet ultime, c'est le reste du reste, et ce qui a été souillé par les camions bennes. C'est vraiment le lieu ultime, l'étape ultime. Et on voit cependant que dans cette étape, ce lieu ultime, avec des conditions de travail très violentes, mafieuses, dangereuses, parce que ça peut prendre feu, ça peut s'affaisser, les relations sociales aussi sont violentes. On voyait que dans cette décharge de Medouna, encore une fois, elle est fermée aujourd'hui, je reprécise, il y avait tous les acteurs du recyclage qui étaient présents, y compris les grossistes, y compris les patrons, etc. C'est de façon, illégale.
C'est aussi ce que vous avez remarqué, Rémi de Bercegol, dans la grande décharge, une des plus grandes décharges de Delhi, celle de Balsois, où ceux qui fouillent vraiment les poubelles ou qui sont dès 4h du matin affairé à cette décharge à Delhi pour être là quand les camions poubelles arrivent qui viennent déverser leur collecte. Eux aussi, ce sont ceux qui ramassent l'ordure ultime, comme dit Bénédicte Florin.
C'est ça, qui sont en bas la hiérarchie sociale, les récupérateurs. Une nouveauté que j'avais observée ces dernières années, c'est qu'on voyait aussi des travailleurs migrants, des réfugiés de Birmanie, de Myanmar, les Rohingyas, une minorité musulmane apatride, qui se retrouvaient surtout dans les décharges et dans les travaux les plus compliqués. Et je voulais juste rajouter également qu'en Inde, ces travailleurs ne sont vraiment pas du tout un groupe homogène, comme l'a montré Bénédicte Florin, c'est très similaire en Inde. Et eux-mêmes, ils distinguent, il y a vraiment des subtiles différences de statut entre ceux qui collectent les déchets non triés des habitants, ceux qui rachètent les matériaux secs. On distingue par exemple le Kudavala, littéralement celui qui ramasse la poubelle, du Kachravala, celui qui collecte les déchets ménagers, humides, mouillés. Il y a ceux qui achètent aussi les matériaux récupérables, beaucoup plus nobles, comme le Radivala, c'est celui qui rachète tout ce qui est papier, journaux, cartons. On a aussi le Kabarivala, c'est celui qui achète pour le coup tout ce qui est métal, bouteilles, verre, carton, plastique et maintenant panneaux solaires, batteries, déchets électroniques. Et à ces collecteurs, on peut aussi rajouter les Safai Kamchari, c'est les balayeurs municipaux, qui récupèrent certains déchets pour les revendre ensuite au Kabarivala afin de compléter leur salaire.
Et vous parlez des panneaux photovoltaïques ou les panneaux solaires, c'est intéressant parce que l'Inde avait lancé il y a 20 ans maintenant un très grand programme d'installation de panneaux solaires un peu partout. Ces panneaux solaires arrivent entre guillemets à échéance et donc ces collecteurs de déchets s'en saisissent, les démontent, récupèrent ce qu'il y a à récupérer. Il y a donc une hiérarchie parmi ces collecteurs de déchets. Il y a ceux qui ont un camion. Le simple fait d'avoir un camion pour les ramasseurs, bien sûr, ça rentabilise et ça assouplit considérablement la façon de travailler. Il y a ceux qui ont des machines, beaucoup au Caire, certains équipés d'ailleurs par Sœur Emmanuelle à l'époque, des broyeurs par exemple pour augmenter la valeur du plastique recyclé. Et puis, il y en a beaucoup qui n'ont rien de tout ça, comme ici à Istanbul.
Les premiers jours, quand j'ai commencé ce travail, je faisais attention à tout le monde parce que je me sentais vraiment observé. Par exemple, les gens se pinçaient le nez lorsqu'ils passaient devant moi. Je me sentais mal à l'aise et triste. Je pensais que je les dérangeais avec mon odeur ou mes vêtements. J'étais très triste à cause de ça.
Bénédicte Florin, est-ce que c'est quelque chose dont ces collecteurs parlent volontiers, comme lui qui a été interrogé il y a quelques années par Arte Regard, de la saleté, de la dangerosité des ordures, de leurs odeurs, de leur texture même, est-ce qu'ils en parlent facilement ?
C'est peut-être paradoxal, parce que il me semble que souvent dans les discours des récupérateurs, il y a une sorte d'autoprotection à ne pas parler de ça. Et on peut avoir le discours inverse qui est récupérer les déchets. Il faut de la force, par exemple, les récupérateurs à Istanbul font 30 kilomètres par jour avec leur charrette, les Français qui vont comme touristes à Istanbul forcément les croisent. Et ces diables, ces chariots peuvent peser jusqu'à 300 kilos. Et on connaît les pentes d'Istanbul. Et là, il y a aussi un contre-stigmate qui est la virilité, la force, le fait qu'on ne se blesse pas, alors que non, en réalité, les gens se blessent. Hein. Les gens ont des accidents. Il y a la pénibilité, il y a la toxicité, il y a ces injustices environnementales qui font que ces personnes qui trient les déchets hein, sont dans des quartiers couverts des déchets des autres. Hein. Les Abalines du Caire hein, nous disaient... On paye pour la taxe d'enlèvement des déchets, on paye des impôts et on traite les déchets des autres, des habitants du Caire, sans avoir, alors j'allais dire un copec, sans avoir une livre égyptienne en retour de la part du gouvernement. Donc ce boulot-là, il est vraiment dans cette économie grise ou économie informelle, même si certains d'entre eux peuvent avoir des licences de collecte, par exemple. C'est un système en réalité plus hybride, informel que ce qu'il y paraît de l'extérieur.
Plus hybride et aussi parce que ça crée vraiment des collectifs au Caire. Il y a 100 000 chiffonniers, plus de 100 000 chiffonniers. Donc ça finit, oui c'est ça à peu près, oui ça finit par créer des liens, on se connaît. Et puis de toute façon, il y a toute une filière du déchet. On va de la collecte du déchet à son recyclage et on met en avant à la fois la force physique que demande la collecte des déchets, mais aussi tout le savoir-faire, le fait que les collecteurs de déchets que vous avez rencontrés au Caire, par exemple Rémi de Bersegol, connaissent par cœur tous les plastiques, ils savent différencier le polypropylène, du polyéthylène, du polyuréthane, etc. etc. À qui les vendent-ils ensuite ces plastiques qu'ils ont récupérés ? Est-ce que les grossistes leur achètent à des prix fixés à la volée ou selon les cours mondiaux, selon une économie vraiment établie ?
Merci pour cette perche, parce que j'ai une petite anecdote à ce sujet. Il y a quelques années, j'étais donc à Delhi sur le gros marché des déchets plastiques, le marché du PVC. J'interviewais les travailleurs, donc principalement cathiques. Et il y en a un d'entre eux qui était assis sur son tas de déchets plastiques. Et puis, il m'a sorti une diatribe un petit peu raciste. Il me regarde, il me montre son téléphone et il me dit « Ah là là, ces Arabes !» Je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Regardez !» Il me montre son téléphone. Et en fait, c'était les prix des barils du pétrole. Et il me disait...
Des pays d'Arabie Saoudite et du Koweït.
Le coût du baril du pétrole, oui, a descendu. Et bien moi, je suis obligé de vendre mon plastique un kilo de moins. Alors, un kilo de moins sur un kilo de plastique, c'est pas bien grave, mais sur une tonne, ça commence à faire beaucoup plus, ça fait 1000 roupies. Et lui, il faisait, si je me rappelle bien, 4 à 5 tonnes par semaine. C'était un gros négociant. Et donc, sur le mois, ça lui faisait une sacrée perte d'argent. Donc oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tous ces recycleurs, il y a le bas d'échelle sociale qui est terrible, mais ensuite, on peut monter dans l'échelle sociale. Et plus on monte dans l'échelle sociale, on se rend compte qu'ils sont connectés à l'économie mondiale. Tous les matériaux ont un prix. Ce prix est indexé sur les cours de l'économie mondiale. Le métaux, le plastique, tout cela est indexé sur le London Stock Exchange. Ils regardent les prix tous les jours. Ils s'envoient les SMS et ils indexent le prix qui peut varier en fonction de ça. Donc c'est très, très impressionnant. 1 ou 2 roupies par kilo, ça fait une marge à la fin, à la tonne assez importante pour cette économie-là de la valorisation. En tout cas, après, pardon, je réponds à votre question. Une fois que ces grossistes ont récupéré assez de tonnes, ça va être revendu à un autre grossiste, puis à un autre grossiste qui va prendre sa petite marge. L'idée, c'est que petit à petit, le tri va être affiné, puis le plastique, là, si on parle du plastique, ça va être lavé, puis broyé. À la fin, ça va devenir un intrant industriel, donc des pellettes, des bouts de plastique, qui vont repartir dans les usines pour refaire des objets neufs, donc recyclés. Bien évidemment, de basse qualité, parce que si on parle du plastique, c'est un matériau qui ne peut pas se recycler éternellement. Hein, il perd de plus en plus de ses capacités, sa matière peu à peu. Donc, ce n'est pas idéal non plus le recyclage, mais il n'empêche qu'on a là une sorte de cycle qui fonctionne et dont les usines ont très besoin. L'Inde se développe très vite, un taux de croissance à 8%. Il y a des usines qui tournent à plein régime. Elles ont besoin de cet intrant industriel en plastique, en métaux, en plomb notamment. Moi, je m'intéresse au recyclage des batteries au plomb. L'Inde a une énorme demande avec des milliers de véhicules qui sont produits chaque jour. Ces milliers de véhicules, ils marchent avec des batteries au plomb, comme la même que vous avez dans votre voiture. Ce plomb-là, pour le coup, ça se recycle très bien, mais qu'on s'est bien fait, qu'on s'est fait dans des bonnes conditions, mais je veux dire, il n'y a pas de perte de matière. Et donc, du coup, l'Inde est très friande du travail de ces collecteurs qui leur permet de répondre à la grosse demande pour faire tourner leurs usines.
Et le lavage du plastique récupéré est devenu un véritable métier. Vous avez publié dans vos travaux la photo d'un ouvrier, c'est à Narela, en janvier 2016, qui semble assez hagard. Et quand il montre son plastique comme ça devant l'objectif, ce plastique est totalement immaculé, il brille, il a été très bien lavé, débarrassé de ses impuretés. Lui, il a nettoyé en remuant pendant des heures des kilos de débris immergés. Et lui, il les remue avec le manche d'une bêche. Et son regard est vraiment intense et impassible. Et vous racontez qu'une fois que vous lui avez demandé de montrer ce déchet, ensuite il se replonge dans son travail et ça dure des heures et des heures et des heures. Il y a quelque chose de très mécanique dans cette façon de faire. En Égypte, Bénédicte Florin, vous nous disiez, vous commenciez à nous dire qu'il avait été question à un moment de formaliser une activité, un secteur jusqu'à présent très informel. Ça s'est passé au début des années 2002. Déjà, pourquoi? On était sous Hosni Moubarak à l'époque. Est-ce qu'il y avait une demande, eh bien, notamment des bailleurs internationaux, au nom de la bonne gouvernance, comme on dit, ou de la modernisation, de faire en sorte que le ramassage des déchets au Caire et dans les grandes villes égyptiennes soit fait par des opérateurs privés?
Alors, ce qui s'est passé au début des années 2000, c'est une injonction, notamment émanant de la Banque mondiale et des fameux plans du FMI, des fameux plans d'ajustement structurel, à moderniser les services publics. Et la modernisation des services publics, ça passe par des PPP, partenariats public-privé, par des délégations de services à celles qui savent faire, à savoir des multinationales. Donc, ce qui se passe par rapport aux déchets en 2003, c'est que le gouvernement égyptien fait appel à des multinationales européennes spécialistes des déchets, que je ne citerai pas ici, et à qui on va attribuer, qu'on va payer pour la collecte des déchets. Le problème, c'est que les abalines ne sont absolument pas mises au courant. Ils découvrent cette délégation de service dans la presse, dans les médias. Ils comprennent très très rapidement, immédiatement, les effets que ça aura pour leur collecte. Si ce sont des multinationales qui collectent les déchets, ils n'ont plus accès à la ressource. Ils passent de l'informel à l'illégal. Ça devient du vol de déchets.
Sauf s'ils se font employer par ces entreprises.
C'est ce qui s'est passé, mais de façon très très indirecte. L'effet premier, ça a été la grève de la collecte par les abalines et le Caire, avant que les multinationales arrivent, c'est couvert de déchets en plein été, et donc ça a été affreux, suffocant, etc. Les habitants du Caire, paradoxalement, ont pris la défense de leur chiffonnier qu'ils connaissent depuis des années, puisque le ramassage se fait au porte-à-porte, et que les familles, les généalogies de chiffonniers connaissent les généalogies de Kairot, hein, grosso modo. Hein. Et je disais paradoxalement, parce que cette défense des chiffonniers interroge par rapport à la stigmatisation dont par ailleurs ils font l'objet. Et puis ces multinationales ont réussi, bon gré mal gré, à collecter dans certains quartiers, mais avec des camions bennes qui ne pouvaient pratiquer les petites rues étroites du Vieux Caire, enfin un matériel qui n'était pas forcément adapté. Ça a été compliqué pour elles aussi. Et en définitive, seule la société italienne a trouvé la parade en déléguant elle-même sa délégation de service à des chiffonniers, des abalines, qui ont pu récupérer en étant payés petitement par la société italienne, mais qui ont pu, de cette façon-là, avoir accès à la ressource, avoir accès aux déchets qu'ils pouvaient ramener dans leur quartier.
Et est-ce que ça a amélioré leurs conditions de travail?
Non, pas vraiment.
Ils n'ont pas eu d'équipement supplémentaire?
Non, en réalité, ça n'a pas changé grand-chose. Peut-être un dernier aspect sur cette délégation de service. Ces multinationales avaient dans leur contrat 20% de recyclage à réaliser qu'elles n'ont jamais réalisé. Et là, on voit bien le transfert de modèles, vous en avez parlé dans les émissions précédentes, le transfert de modèles occidentaux qui ne sont pas repensés et qui n'intègrent pas ces communautés, cette corporation, c'est quasiment de l'industrie, les abalines. Si on ne pense pas cette intégration, cette inclusion, eh bien, on va à l'échec. Et là, ça a été un échec.
Même quand une municipalité met en place, par exemple, de ces grands conteneurs fermés ou enterrés, les collecteurs, que ce soit Istanbul ou Casablanca, trouvent des façons de récupérer quand même des déchets. Il y a une solution pour ça, vous dit l'un d'eux, Bénédicte Florin. Une longue pique avec un crochet de fer. Même s'ils enterraient les conteneurs 7 étages plus bas, on trouverait toujours une solution. Ou alors on fait entrer des individus de petite taille, donc des enfants, dans les bennes. Donc ça, c'est quand même dangereux, c'est compliqué. Donc on pourrait se dire aussi, parce que les conditions de travail de ces travailleurs des déchets sont très difficiles, que leur santé est mise à rude épreuve, que ça les intéresse d'être formalisés quelque part. C'est la question qu'on aurait pu poser, par exemple, à Vijay, que vous aviez donc rencontré, Rémi de Bercegol, à Delhi.
Qui sait d'où viennent toutes ces ordures? Certains développent des problèmes respiratoires en inhalant quelque chose et ils ne peuvent pas s'offrir de traitement. D'autres développent des problèmes rénaux ou cardiaques. De nombreuses personnes sont décédées en faisant ce travail à cause de ces problèmes.
Pourquoi ces récupérateurs, Rémi de Bercegol, qui travaillent dans des conditions précaires, qui risquent leur vie en manipulant tous les jours des produits toxiques et qui sont considérés à peu près comme ce qu'ils ramassent, pourquoi ne cherchent-ils pas, eux, à formaliser leur travail en quelque sorte?
Alors, ils le cherchent, mais ils cherchent aussi à le quitter. Vijay, dont on parle, finalement, il ne travaille plus maintenant dans la récupération des déchets. Il est parti travailler en Uttarakhand, il a rejoint le travail de la construction, mais les récupérateurs en Inde, comme dans d'autres pays, ils s'organisent quand même. À Delhi, ils ont monté la Safai Sena, qui littéralement, ça veut dire l'armée des balayeurs. Ils essayent de négocier leur place avec la municipalité pour avoir le droit d'accéder au quartier pour continuer leur travail, alors qu'ils sont mis en concurrence, c'est vraiment très similaire avec ce que nous disait Bénédicte Florin, alors qu'ils sont mis en concurrence avec des entreprises privées organisées à qui la municipalité a délégué le droit de récupérer les déchets dans les quartiers. Mais les habitants à Delhi, comme ailleurs dans de nombreuses villes indiennes, sont très attachés à ce travail de récupération informel, parce que c'est structuré par tout un système de droit informel quasi coutumier, qui est hérité de père en fils, pour accéder à tel quartier. Les familles connaissent le récupérateur qui vient chez eux, et le récupérateur connaît aussi les petites habitudes de la famille chez lesquelles ils vont récupérer. Ils savent que cette personne-là, elle est un peu sourde d'oreille, il faut sonner 3-4 fois. Cette personne-là, il faut ramasser la poubelle plutôt tel jour que tel jour. Donc il y a déjà un système porte-à-porte qui existe déjà en Inde de manière informelle, et la privatisation du service de manière très similaire au cas égyptien se heurte à cette offre qui existe en réalité déjà, d'autant plus que quand ça a été mis en place à Delhi, l'idée c'était d'avoir un petit camion qui passait dans les quartiers certains jours et qui klaxonnait, et les gens étaient censés descendre leur poubelle à ce moment-là. On est en Inde, ramasser sa poubelle, l'amener soi-même, il y a plein de quartiers de classe moyenne, c'est pas tellement l'habitude, donc ça n'a pas forcément très bien marché, même si ça commence à se diffuser. Mais les récupérateurs résistent, ils créent des coopératives, et dans certains cas, ça peut fonctionner. L'exemple qui est souvent cité, c'est l'exemple à Pune, c'est la coopérative Swatch, c'est Solid Waste Collection and Handling, c'est un modèle coopératif qui est mis en avant comme référence. C'est un partenariat avec la municipalité et un syndicat de travailleurs où il y a 6000 membres de récupérateurs, donc de collecteurs de déchets. Et ça a permis de régulariser environ 2300 récupérateurs à qui a été alloué le droit de travailler dans certains quartiers. Alors ça varie en fonction des années, ça va changer. Dans certaines villes, ça se diffuse. À Bangalore, il y a eu quelques expériences comme ça. À Delhi également. Ça dépend en fonction de la municipalité, de qui est au pouvoir à la municipalité, qui peut privilégier l'un ou l'autre. Donc c'est des configurations qui sont très prometteuses, mais qui ne sont pas non plus la panacée. Mathieu Durand, on parlera.
Il arrive pour le focus.
Avec des exemples tirés de l'Amérique latine.
Oui. Voilà. Et d'ailleurs, il y a les municipalités, mais il y a aussi le gouvernement qui veut légiférer. Le gouvernement indien qui a voulu réglementer par ailleurs récemment la récupération du plomb. Et vous racontez dans vos travaux, Rémi de Bercegol, que depuis, les recycleurs informels vont voir les magasins de batteries et ils proposent 1 roupie de plus que le prix fixé par le gouvernement. Donc il y a une concurrence entre les récupérateurs légaux et illégaux qui se fait dans ces quartiers, qui sont par ailleurs quartiers promis à la rénovation urbaine très souvent. Donc les gouvernements essayent de les faire partir, les collecteurs. À New Delhi, on a confisqué les charrettes à pédales des collecteurs dans certains quartiers pour les forcer à partir. C'est le cas aussi, Bénédicte Florin, à Souleymaniye dans le vieil Istanbul, ou au Caire dans le quartier de Batten Enbakara, sur lequel les promoteurs immobiliers ont des vues depuis longtemps. Il était question de parler des conditions de travail de ces collecteurs au sommet de Genève, là, cet été, sur le plastique. Est-ce que les collecteurs sont invités dans ces grandes réunions internationales?
Pour le sommet de Genève, je ne sais pas, mais la COP qui a eu lieu en Égypte à Sharm el-Cheikh, hein, les récupérateurs n'ont pas été invités. Les leaders de quartier, ceux qui ont une position dans la communauté, dans ces corporations, n'ont pas été invités. Et en fait, peut-être que moi je finirai là-dessus. Hein. Les récupérateurs de déchets, ces récupérateurs recycleurs, hein, pour moi restent les impensés, les invisibles de l'économie circulaire, une économie circulaire qu'on dit vertueuse. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus également, hein, qui est pleine de trous, et peut-être que ces récupérateurs, ils comblent les trous sans avoir de reconnaissance, sans être payés à leur juste valeur, hein, avec ces inégalités, ces hiérarchies dont on a parlé. Je ne sais pas s'ils veulent tous devenir formels, je ne suis pas sûre de ça, mais en tout cas, au moins une reconnaissance pour leur participation à l'environnement et au recyclage, ce qu'ils revendiquent d'ailleurs.
Le chercheur Mathieu Durand va arriver dans ce studio pour nous raconter dans le focus si les collecteurs de Bogota en Colombie sont heureux du nouveau statut qu'ils ont réussi à obtenir après des années de lutte. Ce sera juste après un peu de trash oriental, c'est comme ça qu'on appelle ce style musical. Le groupe turc Funji Istanbul avec le musicien Okay Temiz. Alors ce groupe Funji Istanbul, il utilise des instruments fabriqués à partir de déchets et on appelle apparemment leur univers musical trash oriental, c'est assez récent. Les déchets en plastique, métal, les objets trouvés dans les décharges ou dans la rue sont transformés en véritables instruments. Écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre série sur les déchets. Aujourd'hui, ceux qui les collectent au Caire, à New Delhi, à Istanbul et maintenant à Bogota, les Recycladores de Bogota, un exemple d'intégration des collecteurs informels de déchets.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
La Cour constitutionnelle a donné raison aux recycladores et a ordonné non seulement la protection du métier exercé par les recycladores, mais aussi leur rémunération, car ce que nous faisons est identique à ce que font les autres entreprises privées, à savoir ramasser les déchets.
La représentante de l'association des recycladores de Bogota dans la capitale colombienne, il et elle ont obtenu d'être formalisés à l'issue d'une mobilisation sociale et d'une décision de la Cour constitutionnelle en 2003, qui fait aujourd'hui jurisprudence à l'échelle nationale. Bonjour Mathieu Durand.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, professeur en aménagement du territoire et urbanisme à l'Université du Mans, directeur adjoint du réseau CNRS Déchets, Valeurs et Sociétés et du laboratoire ESO pour Espace et Société, ESO Le Mans. Alors avant toute chose, parce que votre signature de mail indique que vous êtes rudologue. Et qu'est-ce que ça veut dire être rudologue, de rudus, du latin rudus?
Voilà, du latin rudus. La rudologie, c'est une approche disciplinaire inventé dans les années 80 par un chercheur géographe, Jean Gouillet, qui travaillait sur les déchets et qui, comme les abalings ou les précédents récupérateurs de déchets présentés en Inde ou en Égypte, était lui-même marginalisé et donc il a été chercher ce thème latin un peu pompeux de Rudus pour donner plus de valeur à son activité scientifique d'aller chercher sur les déchets.
Le rudologue analyse la production des déchets en amont et propose, lige, des solutions techniques à tous les partenaires de la filière. Pour continuer sur le point sémantique déjà abordé en première partie, est-ce qu'on parle de recycladores dans toute l'Amérique latine ou seulement en Colombie ?
Non, chaque pays a un peu ses spécificités. On va parler de cartoneros en Argentine, par exemple, mais beaucoup de pays, l'Amérique latine, la Colombie, le Pérou, vont parler de recycladores, même si en réalité ce sont pas des individus qui recyclent, ils ne font que collecter et trier, mais c'est le terme qu'ils se donnent eux-mêmes.
Alors, que s'est-il passé en 2003 à Bogota pour que les collecteurs de déchets d'abord se mobilisent pour une reconnaissance de leur statut et obtiennent gain de cause ?
Alors 2003, le petit son qu'on a entendu au début, qui est probablement la voix de Nora Padilla, qui est une des principales leaders recycleurs, recycleuses de Colombie, c'est probablement un son qui date de 2011, puisqu'il y a en effet une décision en 2003 qui donne aux recycleurs l'autorisation de travailler pour la mairie, mais en réalité cette décision a été réaffirmée en 2011 par la Cour constitutionnelle et appliquée en 2013 simplement par le maire Gustavo Petro. Et donc ce que dit cette décision, c'est que un petit peu comme Bénédicte Florin le présentait en Égypte, la municipalité de Bogota a voulu en 2003 mettre les recycleurs dehors et s'appuyer sur des entreprises plus classiques pour collecter les déchets recyclables uniquement. Et les recycleurs eux-mêmes et elles-mêmes se sont organisés pour s'opposer à cette décision et pour imposer via tout un système juridique de imposer leur place dans le jeu politique.
Donc vous avez mentionné Gustavo Petro qui était à l'époque maire de Bogota, qui est aujourd'hui président colombien. Pourquoi ces recycladores sont passés par la justice alors qu'ils étaient appuyés par la mairie ?
Ils n'étaient pas appuyés par la mairie encore. Gustavo Petro est arrivé à la mairie en 2012 et les décisions de la Cour constitutionnelle datent de 2003 et 2011 et c'est pour ça qu'elles ont été appliquées uniquement une fois que ce maire-là est arrivé en place. Avant, les maires s'opposaient à cette décision juridique.
Donc c'est au niveau judiciaire qu'ils ont pu faire valoir leur utilité et la nécessité de leur intégration aux appels d'offres de la municipalité. Avec quels arguments ? Est-ce qu'à l'époque, quand ils justifient leur combat, ils disent que la municipalité de Bogota aurait à gagner à faire appel à eux.
Mais on n'est même pas sur ces arguments-là. On est sur des arguments très juridiques à la base, puisqu'en Colombie, on a une constitution de 1991 qui donne beaucoup de droits aux travailleurs, aux collectifs organisés, aux coopératives habitantes. Et donc, c'est sur des arguments vraiment juridiques qu'ils ont fait valoir leur position. Même si, in fine, en effet, il y a des avantages économiques, environnementaux, sociaux.
Lesquels d'avantages économiques ? Ça coûte vraiment moins cher pour une municipalité aujourd'hui, puisque la pratique s'est répandue, de faire appel à des collecteurs jusqu'à présent informels, mais qui ne le sont plus, enfin, en tout cas des individuels, plutôt qu'à des entreprises.
Alors ça dépend quelle est l'ambition. Oui. Si l'ambition est uniquement de collecter les déchets, de les évacuer de la ville pour des raisons de propreté, dans ce cas-là, non, ça coûte pas moins cher. Par contre, si l'ambition est quand même d'avancer sur les questions du recyclage, et Bogota est une ville, et la Colombie est un pays relativement aisé, Bogota est une ville relativement aisée à l'échelle de l'Amérique latine, et donc il y a un vrai objectif d'avancer sur la question du recyclage, d'augmenter les taux de recyclage, et dans ce cas-là, en effet, ça coûte moins cher de s'appuyer sur ces acteurs informels qui sont en partie formalisés en Colombie que de travailler avec des entreprises classiques.
Est-ce que les recycladores vivent mieux aujourd'hui qu'avant cette réforme, Mathieu Durand ? Est-ce qu'ils sont mieux payés ? Est-ce qu'ils travaillent dans des conditions moins dangereuses ?
Oui, même si tout est relatif, notamment grâce à un dispositif qui est que les recycleurs se rémunèrent en vendant la matière, mais sont aussi rémunérés par la mairie de Bogota depuis 2013 au titre du coût évité. À la place de faire circuler un camion, eh bien on donne une petite partie, pas la totalité, mais une petite partie de cet argent aux recycleurs, et donc ils ont des moyens financiers un petit peu meilleurs. Pour autant, ils sont très dépendants, on a eu une grosse manifestation il y a quelques mois à Bogota, ils restent très dépendants au cours des matières premières, et donc quand les cours internationaux baissent, leurs revenus baissent et met en danger leurs conditions de vie. Mais on a pu observer une amélioration de leurs conditions de vie. Par exemple, beaucoup de recycleurs maintenant se projettent dans des études pour leurs enfants et imaginent que leurs enfants puissent sortir de ces conditions de vie pour aller vers un nouvel avenir.
Et cette petite somme que la mairie de Bogota réussit chaque année à répartir entre les différents collecteurs de la ville, comment se fait le calcul ? Est-ce que c'est au prorata de ce que chacun a collecté ? Comment ça se passe ?
Voilà, c'est là où dans la pratique, c'est pas si simple à mettre en œuvre. C'est en effet au prorata du nombre de kilos, de tonnes collectées par chacun. Donc les recycleurs doivent amener leurs déchets dans des centres agréés, du coup, par la municipalité. Donc il y a tout un système organisé. Ça fonctionne aussi puisqu'en Colombie, on a un financement des services publics qui est relativement efficace, notamment puisque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est payée avec la taxe d'eau potable. Et donc, en gros, si vous ne payez pas votre collecte des déchets, on vous coupe l'eau. Et donc, ça incite les gens à payer plus régulièrement.
Alors, leur travail à eux a été régularisé d'une certaine façon. Est-ce que c'est le cas de l'ensemble du cycle à qui ces collecteurs vendent les déchets récupérés, par exemple, les grossistes, etc. Est-ce que l'ensemble du cycle a été régularisé, formalisé?
Oui, du coup, c'est en effet le cas de l'ensemble du cycle, notamment puisqu'on a ces points agréés qui permettent de collecter les déchets. Ce qui ne veut pas dire qu'on a fait disparaître complètement l'économie informelle. Cette économie informelle reste en place. Elle continue à exister en parallèle de ces acteurs organisés pour tout un tas de raisons. Certains acteurs, certains recycleurs n'ont pas forcément envie ou n'ont pas forcément la possibilité de rentrer dans le système formalisé.
Pourquoi ? Alors, vous parlez d'une marge de la marge, Mathieu Durand.
Oui, Gustavo Petro, qui est maintenant président de la Colombie, a fait paraître en 2024, donc très récemment, il y a un an, un décret pour essayer de généraliser le système qu'il a mis en place à Bogota et le généraliser à l'échelle du pays. Et dans ce décret, il parle bien des recycleurs de métier. Donc, il différencie en permanence les recycleurs de métier, ceux qui sont organisés en coopérative, ceux qui sont présents de façon assez ancienne, des autres recycleurs qui sont pas de métier, qui sont des gens souvent dans une très grande précarité et qui, parfois ponctuellement, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vont collecter les déchets pour avoir, se faire un petit peu d'argent. Ça a beaucoup été le cas des migrants vénézuéliens, par exemple, depuis la crise au Venezuela qui arrive en Colombie. Et donc, ces acteurs-là n'ont pas forcément la possibilité, ne serait-ce que juridique, organisationnelle, pour rentrer dans le système un petit peu formalisé.
Et parfois, ce sont les collecteurs formalisés qui les sous-traitent d'une certaine façon, de façon informelle, ces Vénézuéliens qui ont besoin d'un petit peu d'argent. Donc, a priori, pas tellement de concurrence entre les collecteurs formels, qui ont même, vous le racontez dans vos travaux, dessiné des routes de collecte qui attribuent à chacun des zones de collecte pour que l'ensemble soit équitable. En revanche, une concurrence avec ceux qui restent dans l'informalité, la marge de la marge. Peut-être un mot pour conclure, Mathieu Durand. Dans les autres pays d'Amérique latine où vous avez étudié la place des récupérateurs de déchets, donc Brésil, Pérou en particulier, est-ce que la récupération continue à se faire en très grande partie de façon informelle?
Alors, la récupération pour valorisation, oui. En Amérique latine, différemment au modèle précédent, on a quand même la municipalité ou les prestataires qui collectent l'essentiel des déchets, mais pas pour recyclage. Par contre, le recyclage se fait essentiellement par des informels qui sont pas du tout soutenus par les acteurs publics, comme dans le cas colombien. Au Brésil ou au Pérou, les récupérateurs restent beaucoup plus autonomes, beaucoup plus indépendants. Il y a des tentatives de formalisation qui fonctionnent un petit peu en fonction des villes. C'est très, très lié au cas des villes. Et c'est très lié à la mobilisation des récupérateurs eux-mêmes. Au Pérou, on a une loi nationale qui a tenté d'imposer la même chose, mais sans mobilisation des récupérateurs et récupératrices eux-mêmes, ça n'a pas le même effet, le même impact.
Vous parlez par exemple de municipalités qui rechignent à les faire travailler parce que ces travailleurs informels auraient leurs habitudes, leurs rythmes et leurs horaires tout à fait personnels, ou d'autres qui créent des coopératives pour embaucher des récupérateurs formalisés, lesquels côtoient dans les rues des récupérateurs sur liste d'attente qui voudraient être formalisés. Ça crée des concurrences dans la rue, des tensions dans la rue. Voilà, autant de choses qu'on n'avait pas du tout imaginées sur ces collecteurs de déchets. Merci beaucoup de nous avoir fait part de vos connaissances en rudologie, Mathieu Durand. Peut-être un tout petit mot de conclusion, Bénédicte Florin, parce que vous connaissez bien l'Amérique du Sud aussi. Est-ce que à chaque fois que des collecteurs sont formalisés, comme on le dit, régularisés, le recyclage se passe mieux, les taux de recyclage des déchets, parce que finalement c'est quand même le sujet de notre série cette semaine?
Oui, sans doute. La formalisation, elle permet aussi une protection sociale, l'accès à une sécurité sociale, peut-être à une forme de retraite. Hein. Mais en même temps, les États, les gouvernements n'ont pas forcément un intérêt à formaliser. Parce que formaliser, ça veut dire une organisation, ça veut dire des syndicats, ça veut dire des manifestations, comme le disait Mathieu Durand. Et donc, on voit bien cette économie grise, elle intéresse aussi les politiques parce qu'elle est grise.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous. Bénédicte Florin, géographe à l'Université de Tours, rattachée à l'équipe Monde Arabe et Méditerranée du laboratoire de recherche CITERES. Merci Mathieu Durand, géographe, professeur à l'Université du Mans, directeur adjoint du réseau CNRS Déchets, Valeurs et Sociétés et du laboratoire ESO Le Mans. Et merci beaucoup Rémi de Bercegol qui est ici avec nous en direct depuis Pondichéry, où vous êtes chef du département de sciences sociales de cet institut français de Pondichéry, géographe, chercheur au CNRS, affilié au laboratoire Prodige. Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
En cette semaine de rentrée scolaire, Catherine, vous nous emmenez au Guatemala à la rencontre d'un enseignant qui lutte contre le décrochage scolaire.
Juan Rosetchel enfourche sa moto et traverse les montagnes du Quiché pour se rendre dans l'école primaire où il enseigne, à Santa Clara Charul, dans l'ouest du Guatemala, l'un des villages les plus reculés du pays, abandonné par le gouvernement dans les montagnes du Quiché. Pas d'eau courante ni d'électricité, explique El País America. Un enfant sur deux y souffre de malnutrition. 45% des habitants sont analphabètes. Alors pendant la saison des pluies, la boue transforme les sentiers en pierre. Mais cela n'arrête pas Juan Rosé. Il fait ce trajet deux fois par semaine depuis 20 ans maintenant pour un salaire inférieur à $200 par mois. Juan Rosé a même continué de travailler pendant une grève en juillet dernier qui a paralysé le Guatemala pendant plus de 79 jours, explique America Futura. Grève vue davantage comme une manœuvre politique que comme une défense réelle des enseignants et du droit à l'éducation, estime El País. Le gouvernement guatémaltèque a d'ailleurs sanctionné 2000 enseignants, note le quotidien La Prensa Libre, alors que les enfants des zones rurales en particulier étaient privés de cours, mais aussi de cantines dont ils dépendent pour se nourrir. Bref, en juillet dernier donc, pendant cette grève, Juan Rosé organisait, lui, son 8e voyage scolaire avec plus de 25 enfants pour les sortir de leur village. Ils se sont rendus dans un salon du livre. Ces élèves, au fil des ans, ont également vu la mer pour la première fois de leur vie. Ils ont été en ville et ont découvert vers le bouillonnement urbain des voyages scolaires, financés par des tombolas au niveau local, mais aussi par des dons d'inconnus via des associations jusqu'en Autriche. En 2024, les enfants avaient même pu saluer le président du Guatemala, Bernardo Arevalo. « Nous avons besoin de bourses, d'ordinateurs et d'un toit pour le terrain de sport », avait plaidé Juan Rosé. L'enseignant continue à rêver de la prochaine aventure pour ses élèves. Il sait que les réalisations qui comptent ne se mesurent pas forcément en statistiques. Une petite fille qui rêve de devenir ministre ou encore un élève qui veut être enseignant marque des réussites.
Condamné pour monopole, Catherine Dutu, le géant Google échappe à l'obligation de se séparer de son navigateur Chrome.
C'est pourtant ce que demandait le ministère de la Justice aux États-Unis, rappelle le Wall Street Journal, pour briser donc le monopole de Google sur la recherche en ligne. Monopole renforcé par des accords de plusieurs milliards de dollars passés avec Apple ou Samsung pour pré-installer le moteur Chrome par défaut sur les smartphones et tablettes, précise CNBC. Alors, cette décision d'un juge du tribunal fédéral de Columbia est un coup dur pour le gouvernement américain, souligne le New York Times, car depuis des années, que ce soit sous les administrations Biden ou Trump, dès son premier mandat, le gouvernement fédéral conteste la domination des géants de la tech, Google, mais aussi Apple, Amazon et Meta, accusés de pratiques anticoncurrentielles et de monopoliser certains pans d'Internet, ajoute le New York Times. Alors, dans l'affaire Google, le tribunal n'a pas jugé nécessaire que l'entreprise présente à ses utilisateurs un écran de choix pour recourir éventuellement à un autre moteur de recherche, analyse le Washington Post, mais la justice a tout de même demander à Google d'en finir avec les contrats d'exclusivité et de partager des données avec ses concurrents pour essayer de rétablir de l'équité dans la recherche en ligne, note The Hill. Il n'empêche, les actions de Google sont montées en bourse.
The fact that the ruling says that they don't have to divest Chrome, it's positive news. And look, all the exclusive.
Le fait que Google n'ait pas assez des Chrome est une bonne nouvelle pour l'entreprise. La fin de tous les accords d'exclusivité avec Apple était prévisible, mais Apple peut toujours dire que Google a le meilleur navigateurs et qui veulent faire des affaires avec eux. C'est pourquoi l'action d'Apple est aussi en hausse aujourd'hui, car tout le monde sait que si vous retirez Chrome de Google, même si Google dispose de ses propres puces, sans navigateur, son avantage principal disparaît, analyse le journaliste de Bloomberg. Une chose est sûre, et le juge de Columbia l'a relevé, tout comme le Wall Street Journal, le New York Times et le Washington Post, les progrès rapides de l'intelligence artificielle ont pesé sur cette affaire. Le monopole de Google est déjà grignoté par OpenAI et ChatGPT notamment. L'intelligence artificielle générative offre aux utilisateurs de nombreuses et nouvelles façons de trouver des informations. Difficile à ce jour d'évaluer les conséquences de cette décision antitrust jugée trop faible par des groupes progressistes cités par le Wall Street Journal. C'était le même constat dans les années 90 dans un dossier contre Microsoft, se souvient une experte en droit dans les pages du New York Times. Mais les décisions d'alors avait tout de même bridé Microsoft et ouvert la voie à la concurrence de jeunes pousses, dont Google. Le géant fait face, par ailleurs, à une autre affaire judiciaire en Virginie où une cour fédérale doit rendre sa décision finale dans les semaines à venir contre le monopole de Google en matière publicitaire.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.